J'ai souvent entendu une citation attribuée à François d'Assise, et puis elle dit comme ça, prêche l'évangile tout le temps et si nécessaire, utilise des mots. D'abord, j'ai jamais trouvé la source de cette citation. Du coup, c'est probable que c'est pas lui qui a dit cette phrase. Mais même s'il a vraiment dit ça, il avait tort. Parce qu'est-ce qu'on serait là aujourd'hui si Jésus avait seulement fait des miracles, sans dire qui il était, sans raconter les histoires qu'il a racontées, sans expliquer les histoires qu'il a racontées à ses disciples? Est-ce qu'on serait là aujourd'hui si Jésus avait seulement vécu d'une manière irréprochable, mais sans enseigner comment prier, sans expliquer qui est Dieu, sans nous donner l'autorité pour vaincre Satan? S'il avait seulement fait des miracles et pris soin des gens, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait l'image de Dieu qu'on a aujourd'hui? Je pense pas. Jésus, il enseignait et il montrait dans la pratique ce qu'il enseignait. Il faisait les deux. Si on prend l'exemple de la semaine dernière, dans Jean chapitre 13, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, donc il se lève à table, c'est proche de Pâques, il se lève, il met le linge autour de la table, il prend un bassin, et puis il commence à laver les pieds les uns des autres. Pierre n'a pas trop envie que c'est un peu humiliant pour lui que le maître soit en train de laver ses pieds, mais il fait le tour, et puis ensuite, il s'est assis. Et il leur a demandé, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Et alors là, il explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et il l'explique avec des mots, hein. Il dit ce qu'il veut. Et puis ensuite, il dit ce qu'il attend de ses disciples. Il a dit, bon, moi, je vais montrer l'exemple. Je explique pourquoi j'ai fait. Et maintenant, je dis ce que moi, j'attends de eux. C'est ce qu'il dit dans ce verset-là. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique, il le dit. Il faut les deux. On montre l'amour de Dieu d'une manière pratique, oui, mais à un moment donné, il faut expliquer pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pour qu'on fasse ce qu'on est en train de faire? Et plus encore, qu'est-ce que Dieu attend des personnes? Comme Jésus a montré l'exemple dans le lavage, ensuite il explique et ensuite il termine en disant, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Il dit quelque chose clairement, il explique clairement. Pour notre témoignage, c'est quand on raconte quelque chose qu'on a vécu et qu'on le dit tout simplement à la fin, mais avec conviction. Par exemple, je raconte un épisode démotivant où j'ai prié et j'ai senti la joie revenir après avoir prié. Et ensuite, je peux compléter à la personne avec qui je parle. Tu sais, Dieu, il est aussi disponible pour toi. C'est pas seulement pour moi. Parle avec lui et vois ensuite ce qui se passe. Mets-le à l'épreuve. Ça coûte rien, de toute façon. Ou j'explique que dans notre église, il y a des moments de témoignage et que les gens peuvent venir librement parler sur les choses. Et puis, je partage quelque chose, quelqu'un a témoigné. Je dis, ça m'a beaucoup touché, cette chose que cette personne a témoigné. Puis on peut dire, un jour, je t'invite à venir voir ce qu'on vit dans notre église. C'est pas un culte monotone ou embêtant. Il y a des témoignages libres, il y a de la musique, il y a un message court. On vit vraiment quelque chose de spécial avec Dieu. Et puis on peut inviter comme ça. Ou même encore plus clair, si on a plus d'intimité avec la personne, on peut dire, tu sais, Dieu t'appelle toi aussi. Je n'ai rien trouvé d'autre qui apporte plus de sens à la vie que de découvrir que je pouvais parler à Dieu comme un papa. Toutes les bonnes choses de la vie, l'argent que j'ai, la famille, le travail, les loisirs, les plaisirs, rien ne m'apporte autant de satisfaction. Et ça n'a pas besoin d'être tout le temps. Comme ce gars que j'ai rencontré l'autre jour qui a vu trop de vidéos sur la théorie du complot et d'autres trucs. Pour quelqu'un comme ça, peu importe ce qu'on parle, ça tourne toujours autour d'un désastre, d'un complot, d'une pandémie mondiale, d'une guerre nucléaire. C'est un délire total et puis ça revient toujours sur ce sujet. Dieu ne demande pas d'être borné. Et puis tout le temps parler la même chose et taper sur le même point. On peut tout à fait parler d'un beau restaurant, de défis dans notre travail, de la méthode qu'on utilise au travail ou de projets pour le quartier sans dire Jésus à chaque phrase. C'est pas nécessaire de le faire comme ça. Le problème, c'est l'autre, c'est d'être tombé dans l'autre extrême, de beaucoup trop souvent n'en parler jamais. C'est comme si on a l'impression que la religion, c'est un truc privé. Il faut pas brusquer les gens avec ce genre de sujet. On croit au début de ce verset, qui dit comme ça. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. On est d'accord jusque-là. Jésus n'est pas juste pour quelques élus. C'est pour tous. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc on croit que Dieu est aussi un Dieu qui fera énormément de bien à la personne qui nous écoute. C'est pour toute personne qui le veut. Tout le monde est d'accord jusque-là. Mais le texte ne s'arrête pas. Le verset suivant, il continue. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Donc oui, Jésus est pour tous, mais il faut que ça entre une fois dans l'oreille de quelqu'un pour qu'il puisse le reconnaître. Il ne faut pas être naïf. Est-ce qu'on pense vraiment que tous nos voisins, nos collègues de travail, Dieu va faire que tout d'un coup, de nulle part, ils sont tellement étonnés par notre manière tellement incroyable et magnifique de vivre qu'ils vont tout seuls s'agenouiller dans leur chambre et demander Dieu de diriger leur vie pour toujours? Ce genre de choses peut se passer, effectivement, mais sérieusement, c'est plutôt dans des cas rares. C'est plutôt des témoignages exceptionnels où quelqu'un, sans avoir jamais entendu parler de Dieu, le rencontre dans sa chambre tout seul. La Bible dit, par contre, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il collabore avec nous pour faire son œuvre. Et ce verset continue. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Le verset continue comme ça, 1 Corinthiens 3:9. Les personnes autour de nous sont le champ de Dieu où il veut bâtir, mais il ne veut pas le faire tout seul. Nous sommes ouvriers avec lui dans son champ, dans la construction que Dieu est déjà en train de bâtir dans les personnes autour de nous. Donc j'aimerais te dire, il y a des gens autour de toi que c'est seulement toi qui peux leur dire quelque chose sur Dieu dans ce moment précis. Il n'y a que toi qui es là dans ce moment précis pour leur dire quelque chose sur Dieu. Le fait de se réunir le dimanche et ensuite d'être dispersé en semaine, c'est absolument merveilleux. Parce qu'il y a des personnes que seulement Christophe a contact. Il y a des personnes que seulement Marie-Christine a contact. Il y a des personnes que seulement Noé a contact. Que personne d'autre dans cette église a contact. Un exemple qui m'a beaucoup touché, c'est quand je suis venu pour un des BIM Cortez, et puis c'était la version rap. Et puis j'étais là en uniforme et tout ça, et puis il y a eu la version rap. Et puis à la fin, il y avait des jeunes rappeurs qui venaient de commencer leur carrière. Et puis à la fin, Jimmy allait parler avec eux. Et puis ces jeunes étaient là, ils buvaient tout ce que Jimmy disait. Tout ce qu'ils disaient, ils étaient là, ouais, mais comment t'as fait? Tout ça, et puis il expliquait, ouais, j'ai commencé petit aussi, c'est normal. Et puis ils étaient là, ils écoutaient tout ce qu'ils voulaient dire. Si un jour il les rencontre dans un autre contexte, et puis il dit, ce qui apporte du sens à ma vie, c'est pas le rap, c'est Dieu. Et ça vaut aussi pour vous. Là, ils vont garder ça à la tête toute leur vie. Mon modèle de rappeur, il croit en Dieu. Il y a des personnes autour de nous que seulement nous, on est là et Dieu veut nous utiliser pour montrer son amour et pour témoigner de ce qu'on vit avec lui pour ces personnes-là. On n'a pas tous le don d'évangéliste et on n'attend absolument pas ça de vous. Mais on a tous été appelés à être des témoins. Du coup, je changerai la phrase attribuée à François d'Assise. Il a dit « prêche l'évangile tout le temps et si nécessaire, utilise des mots ». Moi, je mettrais comme ça plutôt. « Prêche l'évangile, encore un, prêche l'évangile tout le temps et sois intentionnel pour utiliser aussi des mots ». Le prêcher l'évangile tout le temps est très important, on a déjà vu la semaine dernière, parce que sinon c'est pas authentique. Si on ne vit pas ce qu'on prêche, voilà, les gens vont vite remarquer qu'on est hypocrite. Donc la première partie, je la garde, parce que c'est très important. Mais la deuxième, sois intentionnel pour utiliser aussi des mots. Maintenant, une nouvelle libératrice. Le fruit ne dépend pas de moi. Regardez ce que Jésus a enseigné sur le fait de témoigner. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Alors je suis ouvrier avec Dieu, je témoigne avec des actes et des paroles à quelqu'un, mais j'ai aucun contrôle sur ce qui peut se produire dans sa vie. Et j'ai pas besoin d'avoir le contrôle, en fait. Des fois, on a dit quelque chose, et ça se passe des mois. Et puis lorsque la personne passe par un moment de questionnement dans la vie, elle se rappelle, ah, mais telle personne m'a dit qu'elle, quand elle avait un moment difficile, elle recherchait de l'aide en Dieu dans ces moments. Donc, je vais essayer, je peux prier et puis voir qu'est-ce qui se passe. Ou quelqu'un dans un autre contexte complètement différent l'invite, cette personne, à aller dans un culte et cette fois, elle décide d'y aller, même si quand nous, on a invité, elle a dit non. Elle peut se dire, c'est déjà la troisième personne qui m'invite ces derniers mois à aller dans un culte. Cette fois, je vais tenter ma chance et découvrir qu'est-ce que c'est un culte. La semaine dernière, on a pratiqué de témoigner d'une chose que Jésus avait fait dans notre vie. C'est quelque chose qu'on peut partager naturellement avec nos amis. C'est une très belle habitude à développer. Si tu te sens pas très à l'aise, je t'encourage à commencer à partager tout naturellement avec des amis chrétiens, déjà. Plus on pratique, plus on se rappelle que Dieu est vraiment en action dans notre vie. Il est déjà en train de faire des choses et puis ça vaut la peine d'en partager. Et plus on pratique, plus ça devient aussi naturel de le faire. Plus on va se dire, ouais, je peux faire avec des amis chrétiens, je peux faire aussi avec des amis non chrétiens. C'est naturel, c'est qui je suis, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Avec nos amis qui ne sont pas encore en route avec Jésus, on parle naturellement d'un bon endroit pour passer des vacances ou de notre manière de gérer le planning familial, par exemple. On se passe des astuces sur la vie quotidienne, on partage les bonnes pratiques et on est influencés les uns par les autres. Et c'est positif d'être influencés les uns par les autres. Et ces amis, s'ils sont vraiment nos amis, ils ont aussi le droit de savoir qui on est réellement dans la spiritualité, de savoir ce qu'on vit avec Dieu, de savoir qu'il répond aux prières, qu'il apporte du sens, de la joie. Il n'y a rien de mauvais là-dedans de partager ce genre de choses. Qu'est-ce qui peut apporter plus de joie et de liberté à une vie? Découvrir que Dieu est réel, qu'il les aime, que la vie entière vaut la peine d'être vécue, ou 2 semaines à Saint-Herpart. Une autre manière de témoigner, c'est de dire qu'est-ce qu'on aurait perdu si on n'avait pas rencontré Jésus. Essaye d'imaginer, parce qu'on aura un petit moment maintenant, comment serait ta vie aujourd'hui si tu n'avais pas rencontré Jésus personnellement? Qu'est-ce qui serait différent? Quelle décision tu aurais prise ou tu n'aurais pas prise pour ta vie? En ce moment, dans le présent, comment est-ce que tu te sentirais en ce moment de ta vie? Comme la semaine dernière, je vous demande de faire des groupes de 3 et je vais donner 2 minutes à chacun pour partager qu'est-ce qui aurait changé dans ta vie si tu n'avais pas rencontré Jésus personnellement. Pour moi, il y a tellement de choses qui auraient changé. J'ai pensé juste à quelques-unes pour partager. J'aurais beaucoup plus, par exemple, exprimé ma frustration en fuyant dans des addictions dans ma vie. Peut-être les jeux en ligne, ou la cigarette, ou l'alcool, ou la pornographie. J'aurais plus fait des choix qui gâcheraient ma vie et celle des autres. Quand il y a eu des addictions dans ma vie, elles ont été surmontées parce que, en regardant vers Jésus, il y a toujours de l'espoir, même si on est au plus profond du puits. Il y a du pardon disponible, il y a de la compassion disponible. Il y a des outils de vérité que quand on les met en pratique, ça libère de ce genre de choses. Ça nous mène dans un chemin de liberté. Je serais dans un désespoir silencieux, cherchant chez les personnes ou dans des projets fantastiques l'amour que seulement Dieu peut donner. Et chaque fois que le projet terminerait ou que la relation me frustrerait, je me dirais à quoi bon en fait ? Toutes ces choses, tout cet investissement dans cette relation ou dans ce projet. Finalement, le but de la vie doit être juste gagner de l'argent pour avoir le maximum de plaisir que je peux profiter et point, c'est tout. Si les personnes ne m'avaient pas présenté Jésus avec compassion, en montrant avec des paroles et des actes concrets que Dieu est réel d'abord et que ce Dieu réel s'intéresse à ma vie, Sincèrement, en façade, je serais quelqu'un de bien, comme tout le monde, mais à l'intérieur, je serais vraiment misérable, dans le désespoir, à la recherche du sens et de l'amour qu'on recherche tous. Ne cachons pas l'espoir que Jésus apporte à une vie. Ne cachons pas cela. C'est pas très très obscur, n'est-ce pas? Tout le monde peut aller à la cafette, peut aller aux toilettes. C'est pas très très obscur. Tout le monde peut se débrouiller comme ça. Mais j'ai une lampe de poche dans ma poche. Je l'ai ici. Qui peut, par exemple, aider à trouver quelque chose que peut-être quelqu'un a perdu par terre. Ou pour voir plus clairement s'il y a une partie qui est sale dans notre corps, dans notre visage. J'ai une lampe de poche là pour ça. Ou pour pouvoir lire un livre dans cette obscurité ici, c'est pas très possible, sauf sur une tablette ou un attel. Mais un vrai livre en papier, ça serait un peu difficile pour apprendre quelque chose dans cette obscurité. Et j'ai une lampe de poche. Mais je sais pas si je vous montre cette lampe de poche. Peut-être vous pouvez penser que je suis prétentieux parce que j'ai une lampe de poche qui m'aide à me déplacer plus facilement ici dans cette salle. Et puis vous n'en avez pas. Que je suis prétentieux parce que j'ai pu voir qu'il y avait des parties dans mon cœur qui étaient sales du petit déjeuner. Du coup, je suis allé me chercher de l'eau pour laver les parties sales de ma main et de mon visage. Ou peut-être si je vous montre lampe de poche, vous allez me dire que vous êtes assez bien comme vous êtes et que vous n'avez jamais eu besoin de lampe de poche et que vous avez toujours réussi à faire tout ce que vous voulez tout seul sans cette aide-là. Du coup, pourquoi en avoir une? Alors, je pense que je vais garder pour moi-même cette lampe de poche et continuer à l'utiliser pour éclairer mon chemin, pour voir quand je suis sale, pour lire mon livre et apprendre de nouvelles choses. Mais je ne vais pas partager avec vous. Parce qu'il y a trop de dangers de le faire. Ne cachons pas l'espoir que Jésus apporte à une vie. Seigneur Jésus, merci pour cette espérance que tu apportes. On a pu partager les choses qui auraient changé notre vie si on ne t'avait pas rencontré personnellement. Des choses peut-être intérieures, des choses extérieures qui auraient changé aussi. Mais surtout les relations entre nous et avec toi, il y aurait beaucoup de changements là, là-dessus. Seigneur, je te demande que qu'on ne garde pas que pour nous cette lumière, Seigneur. Qu'on le partage parce que peut-être tu es déjà en chantier chez quelqu'un. Tu es déjà en train de construire quelque chose dans la vie de quelqu'un et puis on est ouvrier avec toi. Et tu attends aussi qu'on fasse peut-être notre partie, qu'on mette notre brique là pour ce que toi tu es en train de déjà d'exécuter dans leur vie. Et le résultat après, ça t'appartient. C'est pas à nous de contrôler les résultats qu'il peut avoir sur la vie des gens. C'est vrai qu'on se sent maladroit des fois. On ne sait pas trop quoi dire ou comment aborder ce sujet. Et on te demande ta grâce pour nous enseigner. Apprends-nous à partager ce que tu nous montres, ce qu'on vit avec toi, ce qu'on a lu, ce qu'on a appris. Rappelle-nous quand on est peut-être en face de quelqu'un qui a besoin d'écouter des choses qu'on a déjà vécues avec toi, pour qu'on puisse le dire et que ça soit pertinent. On veut être sensible à ton Saint-Esprit. Et on est prêt à faire notre part dans ton œuvre. Amen.